Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous livrer à une lecture concernant les sports de nature. Ah oui, Millau est la capitale des sports de nature. Et c'est vrai qu'entre la randonnée, le canyoning, le parapente, etc., nous sommes très bien placés pour ce genre d'activité. Mais c'est des activités auxquelles on se livre un peu partout en France. Et vous allez voir, le sport de nature, il y a des fois où c'est pas si cool que ça. C'était une belle journée, des températures caniculaires. Et nous avons pris la décision commune d'aller descendre un canyon en chartreuse. On connaissait déjà cette pratique, mais avec l'envie cette fois de passer à un niveau supérieur. Deux cascades en plus des escalades habituelles, des vasques à traverser à la nage, des étroitures remplies d'eau glacée. Nous étions Léo, Nathalie et moi. On a garé la voiture à l'arrivée du canyon. Oh, pas question d'utiliser une deuxième voiture comme ça se fait généralement. Incompatible avec notre idée du sport en montagne. Erreur de direction en cherchant le sentier qui remontait vers le haut du canyon. Et quelques moments d'errance avant de le retrouver. Juste une sente broussailleuse rarement utilisée. Bon, c'est parti pour la galère habituelle. Faut respecter les traditions, a dit Léo en rigolant. Une heure et demie de montée à l'ombre des grands arbres. L'arrivée sur le plateau, près d'une auberge. Je suis allé remplir une gourde. Une chaleur étouffante. L'envie de se mettre dans l'eau fraîche. On a trouvé le chemin qui descendait vers la gorge. Le tintamarre du torrent est remonté jusqu'à nous. J'ai eu un doute à ce moment-là. L'intuition que ça n'était pas pour nous, que nos connaissances de cette pratique étaient insuffisantes. Le topo disait qu'il y avait des échappatoires, ce qui me rassurait. Deux cascades obligatoires sur le parcours, mais pour le reste, il était toujours possible de contourner les obstacles. Enfiler les baudriers, mettre les casques, les habits, la petite veste. Oh, pas de combinaison néoprène, on s'en était toujours passé jusque-là. La corde, des sangles, des mousquetons, les descendeurs. Une gorge assez large au départ, une eau pas trop froide, les pieds se sont vite habitués. J'ai pensé que ça devrait aller quand il serait nécessaire de nager. Hein, pas la première fois qu'on se baignerait dans cette eau revigorante. Ah, des blocs à descendre, le plaisir de l'itinéraire qu'il faut décrypter, les rayons du soleil à travers les feuillages, des lumières magnifiques. La mousse sur les rochers, le roulement de l'eau. Chercher des appuis solides, rester concentré, deviner les passages praticables, anticiper sur le pas suivant, maintenir l'équilibre, rester prudent, ne pas s'emballer surtout. Oh, on savait faire tout ça. Quelques passages un peu plus complexes. Léo cavalait en avant et nous guidait. J'ai aidé Nathalie à trouver des appuis sur des blocs monumentaux. un premier saut dans une vasque, Léo en tête évidemment, puis une autre, plus profonde. Je me suis lancé 2 mètres de haut, je passe entièrement sous l'eau. Je nage 3-4 mètres pour sortir. L'eau pèse énormément dans mes habits. Elle reste prisonnière dans la veste tant que je ne suis pas sorti. Un vrai plombage, une ancre, un boulet. J'ai rien pressenti, rien deviné. Première erreur. Nathalie a descendu un toboggan pour éviter le saut. Le froid ne nous congelait pas, c'était supportable. Ça nous a rassurés pour la suite. On n'a pas fait attention au poids de l'eau dans les habits. Le froid contenait toutes nos craintes et on s'est contenté de ce soulagement pour occulter les autres dangers. On a descendu comme ça une bonne demi-heure avant d'arriver à la première cascade. Les jeux d'escalade nous avaient donné confiance, on gérait. Une chaîne sur un bloc, on s'est penché, chacun notre tour, 10 mètres, quasiment verticaux. Le courant puissant, un flot large, épais, un vaste bassin de réception, une eau noire agitée par les remous de la chute d'eau, 6 ou 7 mètres à nager pour atteindre l'autre bord, un couloir étroit où on devinait une deuxième chute. J'ai installé la corde dans l'anneau et je l'ai lancée. 2 brins de 45 mètres. J'étais content de voir qu'elle traversait tout le bassin. Je me suis dit qu'elle nous servirait de fil d'Ariane. Quand on arrive à l'eau, on traverse le bassin en faisant coulisser le descendeur sur la corde. Hein. Bon, allez, ça fout la trouille, mais si on réfléchit encore, on va pas y aller. J'ai installé le descendeur et je suis parti. Léo a pris 3 photos au fur et à mesure que je descendais. Je me suis laissé glisser jusqu'à l'eau. Je n'avais pas pied. Les parois étaient totalement lisses. Un vacarme tonitruant. J'ai tout de suite commencé à nager et j'ai immédiatement senti tout le poids de l'eau dans mes habits. J'avais tellement de mal à faire coulisser le descendeur sous la corde trempée et considérablement alourdie. Elle s'est emmêlée dans mes jambes. Je n'arrivais pas à m'en dépêtrer et je n'arrivais plus à avancer. J'ai fait demi-tour. Je me suis suspendu à la force des bras à la corde et j'ai essayé d'enlever le mousqueton qui me reliait au descendeur. Mais je n'arrivais pas à le retourner et j'avais vissé la goupille de sécurité. Je devais lutter constamment contre le remous généré par la cascade et le contre-courant qui m'entraînait sous la chute d'eau. Je n'avais rien prévu de tout ça. Le cœur qui bat la chamade. Je souffle longuement. J'ai essayé de repartir en sentant que la corde n'était plus entortillée dans mes jambes. Arrivé au milieu du bassin, j'ai pensé que je n'y arriverais pas. L'extrémité de la corde gorgée d'eau avait coulé, et comme j'étais toujours fixé au descendeur, elle me tirait vers le fond. J'étais au milieu du bassin quand j'ai bu la tasse. 2 fois. J'ai voulu continuer en me disant que si je faisais encore demi-tour et que je me suspendais à la corde, je n'aurais plus la force de repartir. Et puis, je ne voulais plus m'approcher de la chute d'eau. Cette force inimaginable, ce poids énorme, ce vacarme terriblement impressionnant. Mais j'en pouvais plus. Le descendeur me bloquait, la corde m'entraînait au fond. J'avais de plus en plus de mal à rester à la surface. Le souffle court. Et puis, cette impression extrêmement forte pendant quelques secondes, que ça ne serait que mon corps qui allait couler, mais que moi, je resterai à la surface, que je pourrais continuer à observer tout ça avec détachement. Je me regardais me débattre, mais sans avoir confiance que c'était moi. L'environnement avait disparu. Une espèce de bulle sans image. Juste cette sensation inexplicable d'observer un nageur dans une sale situation. Avec une espèce de désintérêt. J'ai entendu Léo hurler. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je me suis dit qu'il fallait que je m'en sorte pour m'occuper de lui et de Nathalie. J'ai fait demi-tour en me tirant à la corde. Je me suis tenu d'une main en battant furieusement des jambes pour éviter de me retrouver sous la cascade et j'ai enfin réussi à sortir le descendeur du mousqueton à vis. J'ai tout lâché et j'ai commencé à nager comme un dément vers l'autre bord. Je savais que cette fois j'allais à y arriver. J'ai senti un brin de corde entre mes jambes. Je l'ai pris. Je me suis accroché à un morceau de bois coincé entre un gros bloc et la falaise. Le courant était puissant. Il fallait que je m'attache, mais j'étais épuisé. Je suis resté à moitié dans l'eau pendant quelques secondes. Puis, je me suis redressé. Je me suis sanglé à une chaîne. J'ai vu qu'il y en avait un autre, un peu plus à droite de la cascade. Elle permettait de descendre en évitant la chute d'eau. Voyons, réfléchir. Je ne pouvais pas remonter. J'avais besoin de la corde pour franchir la deuxième cascade. 17 mètres. Un bassin encore plus large. Mais j'avais l'impression qu'il y avait moins de fond et moins de remous. Ah, j'aurais dû dire à Nathalie de remonter la gorge avec Léo. Il n'avait pas besoin de moi et il reprendrait le chemin du matin. Je récupérais la corde, je descendais tout seul la deuxième cascade et je les rejoignais en bas. Mais on s'est jamais séparés. Dans aucune situation, aucune épreuve, aucune galère. Ça nous est jamais venu à l'esprit. La force du lien nous a piégés. Je leur ai crié « Le problème, c'est le descendeur. Il faut mettre une sangle en plus du mousqueton pour que ça soit plus facile de le retirer quand vous arriverez dans l'eau. Une fois que vous êtes libéré de la corde, il n'y a plus qu'à nager. Mais les habits sont très lourds, c'est épuisant. » Il ne faut pas perdre de force en bas. Il faut enlever le descendeur dès que vous êtes dans l'eau. Je vais tenir la corde pour pas qu'elle vous gêne. J'ai passé un brin de la corde dans un anneau de la chaîne et je me suis attaché avec une longue cordelette pour avoir la liberté de bouger. Une erreur. J'aurais dû me sangler au plus court. Je me suis assis sur le bloc au ras de l'eau et j'ai passé la corde dans mon dos pour l'attendre. Je voulais la tirer au maximum pour aider Nathalie à me rejoindre et que la corde lui serve de fil d'art conducteur. Manque de lucidité. Il ne fallait pas que Nathalie descende. Alors j'ai tendu la corde pour éviter qu'elle ne parte vers la cascade, mais 2 mètres avant d'arriver à l'eau, Nathalie a glissé et elle est partie sous la chute d'eau. Elle a quasiment disparu. Juste ses pieds qui se débattaient. La terreur, le piège, une brûlure dans mon ventre, des frissons dans tout le corps, la voix figée. Nathalie ! J'ai tiré pour la sortir. Le poids de l'eau a tellement tendu la corde que je suis tombé du rocher. Je voulais continuer à tendre la corde. Je savais que Nathalie allait se noyer, mais en tirant sur les brins, je n'arrivais pas à saisir la chaîne où j'étais attaché et à remonter sur le rocher. Je partais en arrière. Il fallait que je lâche la corde, lâcher Nathalie, le temps de remonter, pas le choix. Une horreur. Elle ne pouvait pas s'en sortir sans moi. Et j'entendais Léo qui hurlait « Maman, enlève le descendeur! Enlève le descendeur !» Il regardait sa mère mourir. Un cauchemar. J'ai lassé du mou sur la corde. J'ai saisi la chaîne et je me suis hissé. Une force démesurée, une énergie irréelle. Je me suis calé et j'ai retendu la corde. Je l'ai enroulée autour des poignets. Tenir. Tenir. Le visage de Nathalie, décomposé. Une terreur indescriptible. Les yeux exorbités, la bouche grande ouverte. Et les hurlements de Léo. « Maman !» Enlève le descendeur! Enlève le descendeur! Tenir. Tenir Nathalie en dehors de la cascade. Les pieds qui glissent, aucun appui. Ah, me souder à la roche. Ne plus tomber à l'eau.
tenir. Tenir ?
Nathalie qui défait son baudrier, la tête en bas. Oh, j'arrive pas à y croire. Elle desserre les sangles. Elle va y arriver. Elle ne peut pas se libérer du descendeur, trop de poids sur la corde. Défaire le baudrier. Ouais, elle a raison. Elle libère une jambe. Il ne faut pas qu'elle se retrouve avec un pied coincé. Garder la corde tendue. Ne pas retomber à l'eau. Et Léo. Vas-y, maman. Tu vas y arriver. Enlève-le. Oh, un cauchemar. Oh, ses parents à lui piégés dans une cascade et il ne peut rien faire. Oh, ne pas mourir sous ses yeux. Ne pas mourir sous ses yeux. Sauver Nathalie. Elle tombe à l'eau. Je hurle. Vas-y, vas-y, nage. Regarde-moi. Nage, nage. Oh, oh, ses yeux. Oh, cette terreur. Je l'attrape. Je la serre. Elle tremble de tout son corps. Elle a le visage blanc comme un cadavre. Les lèvres violettes. Elle tremble. Je n'avais jamais vu quelqu'un trembler avec cette force. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie.
Je prends une longue sangle et je l'en sers pour remplacer le baudrier qui pend toujours sur la corde. Je l'attache à la chaîne. Elle est assurée. Je la serre. Je la frotte. J'essaie de la réchauffer et de la calmer.
Thierry, il ne faut pas que Léo descende là-dedans. Il ne faut pas qu'il descende.
Non, non, non. Non, il va remonter au chemin. On va se débrouiller. Lève-toi. Il faut te mettre à l'autre chaîne. Il fait moins froid derrière l'autre bloc et c'est sec. Il faut qu'on bouge, Nathalie. Il faut qu'on sorte de là. Elle tremble toujours de la tête aux pieds. Elle met quand même dans les manœuvres. Je sais qu'elle va récupérer. Elle a une force immense. Je le sais. On s'en est toujours sortis ensemble.
Elle est comment, cette cascade-là ?
Ouais, je pense que c'est mieux. J'ai l'impression que c'est plus calme. Et en longeant le bord à droite, on s'éloigne de la chute d'eau et de remous. Elle tremble moins. Elle fait signe de la main à Léo, le pouce dressé. Ce qu'il vient de voir, il est figé, Léo. Je devine qu'il est blanc de peur, de terreur. Toutes ces images en lui... Je chasse les pensées de nos deux corps coulant dans le froid sous ses yeux, de Nathalie noyée sous la cascade, l'imagination qui s'emballe. Allez, allez, revenir un instant et sortir de là.
Léo, on ne veut pas que tu descendes. Tu vas remonter. Tu fais super attention. Tu retournes à la voiture. Nous, on va descendre cette cascade. Et on remontera dans la forêt pour rattraper un chemin. On ne descend pas la suite du canyon. On va sortir de là et on te rejoint le plus vite possible. Ne t'inquiète pas, hein. Ça va aller. Cette cascade est moins dure. Et on ne descend pas du tout sous l'eau. On ne peut pas rester coincé. Ça va aller. D'accord ?
Juste un signe de la main. Il est tétanisé.
Remonte la corde pour enlever le baudrier de Nat et fais-le descendre sur la corde avec le sac à dos.
Je récupère le matériel et je dis à Léo d'y aller. Un signe de main. Un manque de lucidité. Il fallait qu'il prenne la clé de la voiture dans le sac à dos avant de nous l'envoyer. Il y avait son téléphone portable dans la voiture. Il aurait pu nous appeler. Il va vivre 3 heures de cauchemar supplémentaires. 3 heures qui ne nous quitteront jamais. Bon, Nathalie, je mets une sangle pour enlever le plus facilement le descendeur une fois que je serai dans l'eau. Mais si j'arrive à prendre appui quelque part,
Je l'enlèverai avant d'être dans l'eau et je sauterai. Je tirerai la corde sur la droite, mais pas trop fort quand tu descendras pour que tu puisses bien faire coulisser le descendeur. Et dès que tu touches l'eau, tu te libères. Avec la sangle, tu vas y arriver. Tu ne seras pas sous la cascade et tu n'auras pas la corde dans les jambes qui te tire au fond. Ok ?
Oui. Oui, ça va aller. Il faut qu'on se barre d'ici.
Je descends. Le bas de la paroi est totalement lisse, vertical et couvert de mousse. Aucun appui. Je ne veux pas me retrouver dans l'eau avec le descendeur et la corde dans les jambes. Je me bloque sur le bras gauche. Je remonte la corde avec la main droite et je serre les deux brins dans la main... la main du haut pour libérer la tension. Mes jambes ne me servent à rien et j'ai tout le poids du corps sur le bras gauche. J'ouvre le mousqueton et je sors le descendeur. Je saute en gardant un brin de corde dans la main. Je nage comme un fou dans une eau noire qui me terrorise. Le remous est beaucoup plus fort que je ne le pensais, et le contre-courant me ramène une nouvelle fois vers la chute d'eau. J'essaye de suivre la paroi, de m'éloigner, et je vois dépasser une branche devant moi à 2 mètres. Je me débats, mes habits sont lourds, j'ai froid, brutalement, la peur aussi sans doute. Je saisis la branche, c'est un arbre que je sens sous moi, des branches invisibles s'accroche à mon baudrier. Je n'arrive plus à avancer. Les cordes de relais que j'ai passées par-dessus mes épaules s'accrochent dans la branche que je tiens. Je m'épuise. Il faut que je sorte. J'essaie de trouver sous l'eau la branche qui me bloque. Je sens la boucle métallique du baudrier retenue par une fourche. Je casse la branche. Je me débats de toutes mes forces pour passer par-dessus les amas de branches que j'ai sous moi. Un nouveau piège. Les sangles m'étranglent. Je les enlève rageusement. Je bats des jambes. Je ne trouve aucun appui dans les fouillis des branches qui me griffent. L'impression de devoir nager dans des rouleaux de barbelés. Ah, j'ai lâché la corde. Je m'en aperçois en arrivant sur la berge. J'ai réussi à passer les obstacles, mais j'ai lâché la corde. Les deux brins pendent le long de la falaise, à 2 mètres de la cascade. Je suis frigorifié. Je tremble, comme Nathalie tout à l'heure. Impossible de m'arrêter. La terreur, l'épuisement, le froid. Il faut que je retourne chercher cette corde. Il faut que je la tire pendant que Nathalie descend. Ah, j'ai trop peur de retourner dans l'eau, de repasser par-dessus l'arbre en longeant la falaise. Et je ne veux pas passer au milieu, là où les remous sont le plus puissants. Je ne veux pas périr noyé. Nathalie, remonte la corde et lance-moi un brin. Elle ne m'entend quasiment pas avec le grondement de l'eau. Je lui explique avec des gestes. Ah, elle comprend. Remonter la corde gorgée d'eau, ah, je sais l'effort que ça lui demande. C'est épuisant. Premier lancer raté. La corde retombe trop loin de moi. Même en avançant dans le bassin, je ne peux pas la saisir. Deuxième tentative. Raté. Même avec un descendeur pour faire du lest, je ne pourrais pas la prendre. Le bassin est trop large. J'essaie d'avancer, mais je sens aussitôt le poids de l'eau. Le froid, les branches invisibles qui s'accrochent à mes jambes. Je tremble sans pouvoir me contrôler. Nathalie veut descendre, elle veut sortir de là. Elle dit que le débit de l'eau a augmenté. Elle a lâché d'eau en amont. Elle a mis le sac sur son dos. Je devine sa terreur. Non, Nat, je ne veux pas que tu descendes comme ça. Attends, je cherche. Il faut que je trouve une autre solution. Réfléchir. Calme-toi. Réfléchis. J'observe les parois et je vois de l'autre côté de la cascade une pente ravinée, des arbres déracinés,
un vague couloir que je pourrais peut-être remonter pour arriver de l'autre côté à la même hauteur que Nathalie. Ouais, ouais, c'est ça. Faire une main courante. Ouais, c'est la solution. Et il faut que ça marche. J'escalade la pente. Des pierres qui se décrochent. De la terre, des arbustes. Rien de solide. J'arrive sous un gros tronc couché. Je passe dessous. Je longe la paroi sur une vivière étroite. Je m'approche prudemment du vide. 30 mètres au-dessus du bassin. Et rien ne tient vraiment. Tout est pourri. J'appelle Nathalie. J'arrive à passer la tête de l'autre côté de l'arête rocheuse qui nous sépare. 6 ou 7 mètres entre nous. Et la cascade au milieu. Je lui parle. Je la rassure. Elle a le visage tendu, désemparé et de l'impatience. Oh, il faut que je la tire de là. Je lui explique mon idée. Tu vas venir par là, Nat. Tu vas me lancer la corde. Je vais la fixer et tu fais coulisser les mousquetons. Comme dans une via ferrata. T'as juste à franchir la cascade. Ça passe par là? Oui, ça va aller. Elle remonte à nouveau la corde, le brin rouge. Elle me le lance. Je m'appuie sur un amas d'arbustes à moitié déracinés. Aucune autre prise. J'attrape la corde. À l'autre brin maintenant. Le bleu. Et là, une erreur. J'attrape bien le bout, mais Nathalie laisse filer tout le paquet au lieu de le laisser venir progressivement. La corde descend dans la cascade en faisant une longue boucle. Et quand j'essaie de la remonter, elle se coince sous une écaille au milieu de la chute d'eau. Impossible de la libérer. Je suis obligé de la relâcher en espérant que Nathalie parviendra à la remonter de son côté. 2 minutes. 3. 4. Rien ne bouge. Je me dis que je vais devoir traverser vers elle sur un seul bras pour aller l'aider à tirer. Je cherche un point d'ancrage. Il n'y a que le tronc déraciné. Nathalie continue à tirer par à-coup. Elle ne craquera pas, ni physiquement, ni psychologiquement, je le sais. Même quand elle sera à bout de force, elle se battra toujours. Elle doit penser à Léo, donc moi. Ça y est, je l'ai eu. Elle remonte le brin bleu, vers des anneaux, les lancer. Je saisis la corde. Elle la laisse venir progressivement cette fois. Je recule et je redescends jusqu'à l'arbre. J'attache la corde autour du tronc. Et je remonte à l'arête. Thierry, la corde descend trop fort. Il faudrait l'accrocher plus haut si tu peux. Ok, Nat. Je vais voir. Et je te dis quand c'est bon. Je sais bien qu'il n'y a pas d'autre ancrage possible. Je ne lui dis rien. Je recule pour me caler contre la paroi. Je boque mes pieds dans la terre. Je passe la corde dans mon dos. Je serre les deux bras, les mains soudées sur le nylon trempé. Nat, vas-y, c'est bon, traverse.
C'est bon?
Oui, oui, c'est bon, vas-y, ça tient. Je ne la vois pas. Il faut hurler, la cascade nous sépare et couvre nos voix. La corde se tend dans mon dos. Je résiste. Il faut qu'elle aille vite. Les cuisses raidies. Des à-coups. Des pressions. Elle doit traverser la cascade. Elle ne doit pas avoir de prise. Tout son poids sur la corde. Oh, 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 ne pas lâcher. Nathalie apparaît sur l'arête. Elle a franchi l'angle. La corde se détend. Il n'y avait que toi pour tenir ? Non, non. Il y a l'arbre, mais il était trop bas. Allez, c'est bon, on se barre d'ici. Je voulais pas que tu descendes encore dans l'eau. C'est une horreur en bas. Il y avait un arbre mort dans l'eau. J'arrivais pas à me dépêtrer des branches. Je ramasse les 90 mètres de corde. Je fais des anneaux autour de ma poitrine. Elle pèse énormément. On redescend prudemment jusqu'au bord du torrent. Je m'avance jusqu'à un coude et je vois l'eau qui disparaît entre plusieurs blocs énormes. Rien que le bruit de l'eau me terrifie. L'impression qu'il y a une autre cascade plus bas.
T'as pas envie de descendre là-dedans, Nat?
Ah, moi non plus. Je préfère remonter la pente avec les arbres. On finira bien par tomber sur un chemin.
Ouais, ok. Il faut qu'on fonce, en tout cas. On a passé beaucoup de temps ici et Léo ne sait pas si on s'en est sorti. Il faut trouver un chemin.
Manque de lucidité, encore une fois. On avait le plan du canyon avec dans le sac à dos. Si on l'avait relu calmement, on aurait vu que les difficultés principales étaient passées et que l'autre cascade pouvait s'éviter, qu'il y avait des échappatoires plus bas. Mais on est resté enfermé dans notre erreur.
Remonter une pente dans la forêt, on savait faire, ça nous rassurait. On ne pouvait pas imaginer le piège suivant. On a commencé en se tirant aux branches, aux arbustes, en prenant appui sur les troncs, en cherchant des pierres enchâssées dans la terre, tout ce qui pouvait nous aider à monter. C'est à se demander comment des arbres parvenaient à pousser dans une pente aussi raide. J'ai pris un peu d'avance. Je savais que Nathalie n'avait pas besoin de moi pour progresser dans ce genre de terrain. Elle savait très bien le faire. J'essayais de trouver une trace de passage, mais je n'y croyais guère. C'était beaucoup trop raide. Peut-être un cervidé, ou un passage habituel pour descendre voir. Enfin, on s'en était déjà sorti en suivant de la sorte des passages d'animaux. Mais rien. Et l'impression pesante de monter vers une falaise. Je devinais des blancheurs par endroits, à travers les feuillages. De chaque côté, la pente restait toujours aussi raide. Aucun indice de sortie possible. Aucune échappatoire claire. On montait. Et puis, les premiers rochers sont apparus. J'ai accéléré. Je ne voulais pas être retardé, Léo nous attendait. J'ai cherché un passage à droite, à gauche. Je ne trouvais rien. J'ai fait plusieurs allers-retours en attendant que Nathalie me rejoigne. Je voulais monter. À droite, ça peut passer en diagonale montante. Il y a des espèces de vires rocheuses avec des arbustes. On va faire des longueurs jusqu'à ce qu'on sorte de ce merdier. Tu me prends sur le descendeur. Et si on redescend pour trouver un autre passage, ça va nous prendre un temps de fou, ok?
10 mètres. De la terre, des pierres friables, des ronciers, des arbustes morts. Rien de solide, rien de sûr, aucun point d'assurance. 20 mètres. Rien de mieux. Il faut que je nettoie les prises, que j'enlève la terre. Et elle coule comme de la farine. Je cherche la moindre zone de rocher, juste de quoi assurer le déplacement suivant. J'essaie de trouver l'itinéraire le moins risqué, ne surtout pas me fourvoyer dans une impasse. Des équilibres précaires, les doigts enfoncés dans la terre sur les racines. Des tiges de buissons, les techniques de croisement de pieds, tailler des marches dans la terre qui s'effrite, trouver une petite réglette, une écaille, juste de quoi maintenir l'équilibre. Avancer de 20 cm, viser ce bouquet d'arbustes, faire le relais avant que Nathalie ne soit au bout de la corde. Encore 10 mètres. La sueur qui me brûle les yeux, plus grand chose sous les doigts, la paroi plus raide, mes yeux qui plongent vers le bas. On doit être
sais pas moi, à 100 mètres au-dessus de la rivière. Les premiers arbres conséquents sont à 40 mètres sous moi. Rien pour m'arrêter si je tombe. Je vole jusqu'au bout de la corde. Oh, oh putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Sur quoi je grimpe là? Stopper les pensées, bloquer les inquiétudes, rester concentré sur le physique, sur les techniques d'escalade, sur la lecture de la voix. Grimper là-dedans. Oh, ça, personne n'en aurait l'idée. Et Léo, oh, il doit nous croire morts. Un cauchemar. Il faut sortir de là, le retrouver. Une quête que je dérange me pique à la tempe, juste au bord de l'œil. Oh putain, putain, faut que ça s'arrête là. La brûlure est très forte. Je frotte avec mes doigts pleins de terre. Je salis une lentille de contact. Oh merde, 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 merde. Un dernier équilibre. Une main crispée sur une touffe d'herbe. 2 mètres encore. Les yeux rivés sur le bosquet où je pourrais m'assurer. Un pied sur une pierre qui bouge. Une main enfoncée dans la terre. Je creuse sous un arbuste pour dégager une racine solide, un bout de calcaire. Tous les muscles tendus. Utiliser ce que je sais. Rester dans l'instant. Étouffer la peur. Ne pas penser. Ne pas penser. Laisser mon corps se battre. L'impression que ma volonté seule peut me maintenir sur la pente. Une alliée fidèle, la volonté. Je tends la main droite pour saisir un tronc fluet, mais terriblement précieux dans cet environnement uniforme. Je m'attache. Vas-y, Nathalie. C'est bon. Je suis vaché. Elle avance. Elle lutte. Je l'entends souffler. Je tends la corde, mais sans trop tirer pour ne pas la déséquilibrer. Elle va vite. Elle suit mes traces. Je la vois. Elle s'approche, les yeux fixés sur les prises. Elle tire. Elle pousse sur les jambes. Elle s'accroche à tout ce qu'elle trouve. Aucun signe de faiblesse. Tout à l'heure, elle a failli mourir, mais elle tient. Ouais, ouais, on va s'en sortir. Mais comment t'es passé là-dedans? C'est complètement pourri. T'as pas mis un seul point d'assurance? Ça a l'air mieux après. J'ai l'impression qu'il y a davantage de rochers. J'espère qu'on va vite sortir de la falaise et retrouver la forêt. On doit pas être loin du haut. Ah oui, oui, j'espère. T'imagines, Léo? Ouais, ouais, je ne pense qu'à lui. Voilà la source de notre énergie. Léo. Il nous a quittés avant qu'on ne descende la deuxième cascade. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas qu'on s'en est sorti, qu'on remonte. Il ne sait rien. Et son imagination doit être la pire des ennemis. 2e longueur. Des rochers au début. Puis des ronciers de plus en plus nombreux. Je me déchire la peau en les saisissant. Mais ils sont solides. 20 mètres. Et puis, cet espace vide devant moi. Juste de la roche, couverte de terre. Du sable noir. Cet espace vide entre mes jambes. Le grondement de la rivière qui s'estompe. Le relais où est fixée Nathalie qui ne tiendra pas si je tombe. Il faut rester dans l'instant. Étouffer la peur. Bloquer les pensées. Je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas briser cet élan qui me maintient collé à la pente. Je sens gonfler dans mes fibres une énergie fabuleuse. Quelque chose que je n'identifie pas. C'est pas du courage ou de la folie, c'est autre chose. Comme un flux qui descend en moi, qui me remplit, m'électrise. Cette impression fugitive, quelques secondes, que rien ne peut m'arriver, que quelqu'un veille sur moi et me nourrit. La vie en moi comme une entité que je dois sauver,
ce n'est pas pour moi. Je ne suis rien qu'un convoyeur. C'est elle que je dois préserver. Je sens en moi sa plénitude, ce don d'amour en moi, cette énergie qui s'est constituée en moi, qui a pris forme. Je dois la maintenir. Nathalie crie « Bout de corde !» Je n'ai pas de relais. Aucun ancrage possible, aucun point d'assurance. Impossible de rester suspendu, je dois avancer. Nat, détache-toi et monte en même temps que moi, corde tendue. Pas le choix. Si l'un de nous deux tombe, on part. Les yeux rivés sur les prises. Léo, ne pas tomber. Vas-y, Nat, tu peux le faire. Gardez l'équilibre. Avancez en souplesse. Anticipez, ne pas hésiter, ne pas rester trop longtemps sur un appui. Rien ne tient longtemps. Se mettre en apesanteur, la volonté comme support, se poser sur l'énergie comme sur un socle solide. Un bosquet, enfin. Je m'attache. J'avale la corde. Nathalie m'a toujours suivi.
Oh, bon Dieu, quelle énergie.
Je me surprends à sourire. Ah, je l'aime. J'ai une confiance totale en elle. Ah, on va s'en sortir.
Ouais.
Ouais, on va s'en sortir. Nathalie me rejoint. Des coulées de sueur sur son visage. On ne s'est même pas arrêté pour enlever nos vestes. Peine paroi. Le soleil nous cuit, pas un souffle d'air.
Oh, si tu n'avais pas nettoyé les prises, je ne serais jamais passé là-dedans. C'est dingue. Comment tu fais pour savoir où tu peux tenir?
Oh, je sais pas, Nat. Je sais pas. Troisième longueur. À l'horizontale. Pas moyen de monter. Je traverse vers les arbres. On doit être 150 mètres au-dessus de la rivière. J'atteins la forêt. J'ai envie de courir jusqu'en haut. Nathalie arrive. On enlève la corde. Je fais des anneaux autour de la poitrine et on monte droit dans la pente. Ah, on crève de soif. Un mur de ronces, d'arbustes entremêlés. Rien. Aucun passage. On est au pied d'une barrière végétale d'une densité invraisemblable. Aucune échappatoire. Le calice jusqu'à la ligne. Alors je rentre tête baissée dans le mur. Envie de tout briser, de tout détruire, de raser cette jungle d'épineux. L'impression que tout ce qui griffe et déchire s'est regroupé ici. La corde et le sac sur mon dos s'accrochent sans cesse. Je dois déployer des efforts gigantesques pour gagner un mètre. Nathalie me suit dans le sillage de la tranchée que j'essaie de creuser. On est à quatre pattes, hein, impossible de se redresser. Je ne sais pas vers quoi on se dirige, comme si ça n'allait jamais s'arrêter. J'aperçois des bouts de verre, des bouteilles brisées à moitié recouvertes de terre, puis des éclats de tuiles, un grillage, un seau. Il doit y avoir une route au-dessus de nous. C'est le dépotoir du coin, ouais. Il faut monter. J'ai des étoiles devant les yeux, le cœur dans la bouche, la gorge en feu, des tremblements dans les bras. Je redescends 2 mètres avec la terre qui s'effronte sous mes pieds. La pente est toujours aussi raide. Il faut prendre les ronces à pleine main pour se hisser. J'essaie de tirer sur mes manches pour protéger ma peau, mais ça tient pas. Ah, j'ai la rage, une haine me pousse vers le haut. Je veux sortir de ce merdier. Je rampe, je casse. J'entends Nathalie qui me suit. Elle veut utiliser un bout de bois pour taper sur les ronces, mais elle n'a même pas la place pour armer son bras. On est empêtré dans un amas compact, serré, d'une densité invraisemblable. Toutes les plantes se sont entremêlées pour résister à la pente et à l'érosion, et ce sont les racines qui retiennent le sol. Il n'y a même pas une
trace animale, rien, aucune sente, rien de vivant ne doit s'aventurer dans ce fouillis. Sinon, éventuellement des souris. Il faut qu'on sorte de là, Nathalie. J'en peux plus.
Une église qui sonne au-dessus de nous. Je devine un mur blanc. 5 coups.
Putain, c'est 5 heures. Léo doit croire qu'on est mort. Je recommence à tout briser, à ramper. Je suis à plat ventre. Je ne peux plus me redresser. Je râle, je m'encourage. La corde doit être déchirée par les ronces. Ma veste, le sac, les sangles, tout s'accroche. Tout s'accroche et me retient, ouais. Les mains en feu, déchirées, lacérées.
Là, une trouée, une ouverture, un coin de ciel, un mur à 5 mètres.
Nat, il y a une sortie, je vois un mur.
Je saisis un tronc, je me laisse tomber sur un buisson de ronces et d'orties. J'écrase tout ce que je peux. J'ai une jambe prise dans un amas de branches. Je me mets sur le dos, je me retourne, je rampe, je me relève. La sortie, là, juste devant moi. J'avance à 4 pattes, dans un champ. On est juste sous le mur de l'église. Et je m'écroule dans l'herbe. Je suis vidé. Je ferme les yeux. J'ai le cœur qui bat comme un tambour. J'entends Nathalie qui lutte encore. Et mon bras droit qui tressaute sans cesse. Je n'ai plus de salive. Et ce sourire intérieur qui me saisit.
Viens Thierry, lève-toi. Il faut qu'on trouve une voiture.
Je me redresse en tremblant et je la suis. Je suis vidé. Nathalie, elle ne lâche rien.
Il faut qu'on descende en voiture. Pas question de chercher un chemin.
Ouais, mais t'as vu dans quel état on est? Personne ne va nous prendre si on fait du stop.
Ouais, ben j'arrête la première voiture qui passe. Je vais pas faire du stop.
On trouve un robinet à l'entrée du cimetière. Je suis en train de boire quand une voiture arrive sur le parking. Nathalie descend immédiatement vers la conductrice. Une moto s'arrête à son tour. Moi, je bois. Je bois des litres d'eau, des litres et des litres d'eau. Je regarde Nathalie qui explique la situation. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Il lui faut 2 minutes pour convaincre les deux personnes, une femme et un homme. Un rendez-vous amoureux, peut-être. Je m'approche. Nathalie explique où on a laissé la voiture. L'homme connaît l'endroit. 1 quart d'heure de voiture. Ils sont d'accord pour nous descendre. Je suis estomaqué que Nathalie ait réussi à les convaincre si vite. J'ai une crampe dans le bras droit et des tremblements dans les jambes. Nathalie doit m'aider pour enlever mon baudrier. J'ai envie de vomir. On met des couvertures et des vieux tissus pour protéger la banquette de nos habits terreux et on part. Pendant la route, on explique ce qu'on a vécu. Et on explique que Léo qui nous attend et qui ne sait pas si on est vivant. Et voilà qu'un car nous ralentit encore sur la route sinueuse.
Bah et en plus, vous savez pas si votre garçon a réussi à descendre tout seul,
dit l'homme. Ah ça on n'y avait même pas pensé. D'un seul coup, un doute effroyable. Et s'il lui était arrivé quelque chose avant qu'il ne rejoigne le chemin? J'essaie de me souvenir des obstacles qu'on a rencontrés avant d'arriver à la cascade. Non, Léo ne peut pas tomber là-dedans, c'est impossible. Pas lui. On arrive sur le parking, tout au bout d'une piste caillouteuse. On ne voit pas Léo. Non. Un coup au cœur, la peur terrible. Une vague qui me submerge. Je descends de la voiture avant qu'elle ne soit arrêtée et je crie « Léo !»
Regarde Thierry, sa veste est là.
Ouais, sa veste est là sur le capot. Il est redescendu, il est vivant. Il doit nous chercher en bas du torrent ou alors il est descendu au village pour prévenir les secours. J'appelle encore. On réfléchit. Je vais descendre en voiture au village et Nathalie va rester là. Non, non, non. Non, je vais d'abord appeler la gendarmerie pour savoir si Léo a déclenché les secours.
Ah bah tiens, le voilà, votre garçon.
L'homme nous le montre du bras. On se retourne sur le chemin.
Léo !
On court vers lui. On le prend dans nos bras. On le serre. On reste tous les trois enlacés.
Mais où vous étiez ?
Oh, on s'est foutu dans une galère, tu peux pas imaginer. On voulait plus descendre par le temps.
Ça fait combien de temps que t'es là ? Bah 3 heures. J'ai décidé de casser une vitre et d'appeler les secours. J'ai remonté une dernière fois sur le chemin, je pensais que vous alliez arriver par là.
Et toutes les explications qui déboulent en désordre. Nos deux convoyeurs nous laissent. On les remercie chaleureusement. On prend les gourdes dans le coffre. J'ai des crampes et les mains en feu. Elles sont lacérées. Des chapelets d'épines. J'arrive à peine à enlever mes habits. Léo s'est assis à l'arrière. Il ne dit rien. On continue à lui expliquer tout ce qui s'est passé. On savait que tu devais être mort d'inquiétude. Et on ne pouvait pas te joindre. Et puis on a fait une autre connerie. On aurait dû te laisser la clé de la voiture. On aurait pu s'appeler. On voulait te rejoindre le plus vite possible.
Mais si vous aviez suivi le torrent, vous seriez descendu beaucoup plus vite.
Bah oui, on le sait maintenant, mais on voulait plus retourner dans l'eau. On pensait qu'on allait tomber sur une falaise. Et on s'est laissé piéger, on n'a pas assez réfléchi.
On est désolé, Léo. Si tu savais comment on a pensé à toi tout le temps, c'est ça le pire, se dire que tu nous croyais morts. C'est ça qui nous a donné la force d'avancer tout le temps. Mais j'aurais préféré être avec vous.
Oui, on sait Léo. Mais on ne pouvait pas te faire descendre dans cette cascade alors qu'on avait failli y mourir tous les deux. Ça aurait été complètement dingue. Mais on sait très bien ce que tu as vécu. Et que c'est encore pire. Toi, tu savais rien. On s'est expliqué, on a raconté, vidé les émotions, les questionnements, et pendant toute la route, et puis encore à la maison, pendant le repas, et puis le lendemain encore. Et puis, ce besoin de tout écrire, de garder une trace, de tirer les enseignements. Ouais. Pour faire ça, il faut des combinaisons néoprènes. Elles permettent de flotter, de ne pas avoir à lutter contre le poids de l'eau. Il faut faire des rappels avec une poignée de spédéo à ouverture automatique. Le descendeur d'escalade est un piège une fois qu'on est dans l'eau. La corde double de 45 mètres était trop longue et devenait trop lourde une fois gorgée d'eau. Les techniques d'alpinisme ne suffisent pas pour la pratique du canyoning. Mais elles nous ont servi pour franchir la falaise. Sans cette pratique de la montagne, on serait tombé. Des ressources insoupçonnées, un autre enseignement, oui. On le savait déjà, on connaissait ce potentiel généré par la situation d'urgence. Mais on sous-estimait sa dimension. Et cette énergie, encore là, cette foi, cette force que je ressens en moi et qui n'est pas à moi.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas comment vous avez vécu ça, mais je crois que c'est un grand moment d'émotion. Et avant d'aller faire du sport dans la nature, Prenez vos précautions, surtout. Voilà, je vais dire un grand merci à Théo qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis, comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.